Là, donc, je suis le père Christophe Advis, un des quatre chapelains qui a pour mission de faire connaître, ainsi que les autres chapelains, faire connaître le message de Parel Monial. Et nous vivons l'heure sainte chaque mois ici pour tenir compagnie au Seigneur. Nous allons y revenir. Donc ce soir, j'aimerais vous parler des antiennes particulièrement que nous vivons pendant le temps du carême. Une antienne, c'est une petite phrase que l'on dit avant le psaume. Et au début du premier office, pendant le carême, il y a ce qu'on appelle le psaume invitatoire. Alors on peut commencer la liturgie le matin, soit par les matines, ce qu'on appelait les matines autrefois, comme dans la chanson « Frère Jacques, sonnez les matines ». Voilà, ça doit vous dire peut-être quelque chose. Et aujourd'hui, on appelle ça l'office des lectures. Voilà. Alors, il y a toujours un psaume qui est ce qu'on appelle le psaume invitatoire. Alors, soit lorsqu'on se lève très tôt, comme certains moines ou moniales, vers 4 heures du matin, on commence par cet office des matines, donc des lectures, ou alors on peut commencer par l'office des laudes. Je pense que nos sœurs de la Visitation commencent par l'office des laudes. Non, par les offices des lectures, à quelle heure, mes sœurs ? À 6h30, mais ce n'est pas public. Voilà, donc effectivement, elle commence par l'office des lectures. Il y a le psaume invitatoire et il y a ces petites antiennes dont je vous parlais à l'instant, et il y en a deux particulières pendant le temps du carême. Il y en a une qui dit « Les yeux fixés sur Jésus-Christ entrons dans le combat de Dieu ». Et la seconde « Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais » Ben je vois que tout le monde dit au moins peut-être des offices, parce que l'office, je le rappelle, ce sont des psaumes, des intercessions, des paroles du Seigneur, et c'est aussi prier pour les gens qui ne prient pas. Alors, ce n'est pas simplement réservé aux religieux, religieuses, prêtres, mais on peut aussi dire l'office. Alors, les yeux fixés sur Jésus-Christ entrons dans le combat de Dieu. Voyons d'abord cette première antienne. Quel est ce combat de Dieu et pourquoi entrer dedans ? Voilà ce qu'on vient de nous dire. Alors pour les petites paroles, en fait, il faut mieux les prendre à la fin. Parce qu'on prend le temps de rester devant le Seigneur. Je dis ça pour les auditeurs, il y a des petites paroles devant. Et en fait, voilà, on va prendre le temps de rentrer dans le combat de Dieu, les yeux fixés sur lui. Alors, quel est ce combat de Dieu ? Pourquoi Dieu combat-il ? Et contre qui ? Voilà. Si on y réfléchit bien, puisque Dieu est Dieu, il n'a pas besoin de combattre, puisque c'est lui le plus fort. À quoi bon combattre ? Puis voilà, le bon Dieu, c'est le plus fort. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Donc, son nom est le Seigneur, nous dit le livre de l'Exode. Le Seigneur est le guerrier des combats, son nom est le Seigneur. Alors Dieu combat, non pour lui, il n'a pas besoin de combattre le bon Dieu, mais il combat pour nous. Le combat de Dieu, c'est un combat pour chacun et chacune d'entre nous. Alors je vois des mines un petit peu serrées là pendant que je vous parle, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Voilà, effectivement, le bon Dieu, Dieu combat pour nous. Il combat pour que nous ayons la vie éternelle. Parce que lui étant éternel, il nous veut avec lui et que nous acceptions librement dans l'éternité vivre une communion d'amour avec lui. Est-ce que nous voulons vivre une communion d'amour avec le Seigneur pour l'éternité ? C'est la question. Eh bien, si c'est oui, nous allons pouvoir entrer dans ce combat avec lui. Lorsqu'on se bat pour quelqu'un, c'est que l'on aime cette personne. Nous sommes bien d'accord. Quelqu'un qui se bat pour une autre personne, c'est qu'il l'aime. Je vais me battre pour toi. Et on pense que lorsqu'on se bat pour quelqu'un, cette personne vaut la peine qu'on se batte pour elle. Le combat de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous est le signe de son amour pour chacun et chacune d'entre nous. Si Dieu combat pour nous, c'est qu'il pensons que nous en valons la peine. Donc, comme le dit le livre d'Isaïe, c'est qu'on a du prix à ses yeux. Je me suis battu pour toi. Et on peut méditer pendant cette heure où nous allons être devant le Saint-Sacrement, ah, le Seigneur s'est battu pour moi. Quelque chose quand même. Personnellement, hein, pas en groupe. Mais il ne s'est pas dit je vais me battre pour tous les habitants de la terre. Mais il s'est battu pour chacun et chacune d'entre nous. Ah, il avait sans doute notre visage, voilà, qui lui est apparu au moment de la Passion. Alors ça a dû être une multitude de mosaïques. Hein, Paray-le-Monial, c'est la ville de la mosaïque, je crois. Et voilà, il faut préparer les cœurs à progressivement vivre eh bien, cette image que Dieu a de nous. C'est-à-dire que comme des milliers de mosaïques, eh bien, nous sommes un petit point pour le Seigneur, mais un point si important qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Plus qu'un petit point, mais une personne. Et il pense que chacun de ces petits grains de poussière, ces petits points que nous sommes, nous valons la peine que l'on se batte, qu'il se batte pour chacun d'entre nous. Donc Dieu nous veut avec lui pour l'éternité, il se bat comme cela, et il l'a déjà fait puisqu'il a fait sortir par exemple son peuple de l'esclavage au chapitre 14 du livre de l'Exode, versets 11 à 14. Quand les Hébreux sont près de la mer Rouge et que les Égyptiens les rejoignent, ils disent à Moïse, l'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte. Voilà. Les Égyptiens auraient préféré rester en Égypte parce qu'ils voient, les Hébreux auraient préféré rester en Égypte parce qu'ils voient les Égyptiens les pourchasser et, bien sûr, pour les tuer. C'est bien là ce que nous te disions en Égypte, continue-t-il de dire à Moïse. Ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens, il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. Et Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, comme quoi ce n'est pas Jean-Paul II qui l'a dit en premier, mais il l'a puisé dans la parole de Dieu. N'ayez pas peur, tenez bon, vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous. Ah, le Seigneur combattra pour vous. Et vous, vous n'aurez rien à faire. C'est super, quand on y pense. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. » C'est tout ce que le Seigneur nous demande, de se mettre en route. « Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. » Nous savons, le passage de la mer Rouge, c'est une préfiguration de l'entrée vers la vie éternelle. Les eaux qui se séparent en deux, l'eau étant le symbole de la mort pour les Hébreux, voilà, puisque Jésus qui marche sur la mort dans l'Évangile, ben c'est Jésus qui marche sur l'eau déjà, c'est une préfiguration de la résurrection. Voilà. Ce bâton levé pour fendre la mer, déjà, c'est la croix du Christ pour fendre la mort. Je me bats pour toi parce que je t'aime, nous dit-il. Voilà. Donc, ce lieu du combat, il y a toujours un lieu du combat. Quand on combat, dans le sport, il y a un ring. On ne va pas prendre forcément cette image, mais il y a un lieu du combat. Et le lieu principal de ce combat, pour le Christ, c'est le jardin des Oliviers. Et Jésus exprime à Sainte Marguerite Marie combien, pour lui, ce lieu est le lieu du combat. Il lui dit, « Toutes les nuits, du jeudi au vendredi, nous y sommes, je te ferai participer à cette mortelle tristesse que j'ai bien voulu sentir au jardin des Oliviers. » Voilà, donc c'est là où il a le plus souffert dans sa passion, dira-t-il à Sainte Marguerite Marie. C'est vraiment le lieu du combat. Je décide de me battre pour chaque homme et chaque femme qui a existé, qui existe et qui existera. Donc chacun d'entre nous. Le jardin, eh bien, ça nous rappelle évidemment le jardin d'Éden, où l'homme a perdu l'amitié de Dieu en n'écoutant plus la voix du Seigneur dans son cœur, mais en faisant confiance, hélas, au père du mensonge, c'est-à-dire Satan. Mais Dieu ne s'est pas résolu à nous perdre. Il veut retrouver avec notre humanité cette communion d'amour, et c'est dans un jardin que tout doit recommencer. Il nous a perdus dans un jardin, il va nous retrouver dans un jardin. Le livre du Cantique des Cantiques nous dit « Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, dans les parterres d'aromates, pour mener ses brebis paître au jardin et pour cueillir des lys. » C'est le Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 2. Le bien-aimé est bien sûr descendu dans le jardin des oliviers, dans les parterres d'aromates. Alors j'aime beaucoup cette image, puisque les aromates, on dit que ça peut être aussi, c'est nos prières. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Eh bien, qu'on devienne des saints. Ou du moins, que dans notre vie, il y ait une odeur de sainteté. Donc il faut que nous soyons aromatisés. Il faut qu'on sente bon. Voilà, il faut que nos prières soient comme des aromates. Donc il faut qu'on soit... Un aromate, ça accompagne forcément un plat. On est bien d'accord? Donc si on veut faire une image un petit peu particulière, je dirais que le plat, l'agneau, eh bien c'est le Christ. Il a besoin d'être aromatisé par nos prières. Une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais voilà, ça a l'avantage de ne pas avoir quelque chose de fade. D'ailleurs, le Seigneur nous dit bien qu'il faut qu'on ait du goût. Vous êtes le sel de la terre. Voilà. Il nous demande donc d'avoir une certaine consistance aussi. Dans ce jardin, nous le savons, se trouvent des arbres, donc nous l'avons dit, des oliviers. Nous retrouvons l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le livre de la Genèse, mais cette fois, le Christ est entouré d'oliviers. Et ça nous rappelle l'histoire de l'arche de Noé. Après le déluge, Noé lâche une colombe pour voir si la terre est sèche. La colombe revient avec un rameau d'olivier dans le bec. Et Noé sait que, voilà, le déluge est terminé, qu'il va pouvoir, comme le peuple hébreu bien après, eh bien fouler une terre sèche où il pourra s'installer et vivre. Noé va marcher sur une nouvelle terre en compagnie de son Dieu. Alors, une nouvelle alliance va être créée, vient de naître, et il y en aura encore beaucoup dans l'histoire du peuple d'Israël, entre eux et Dieu. Mais celle du Christ, cette alliance, elle est et nouvelle et éternelle. C'est la prière eucharistique que nous entendons à chaque messe. Cette alliance, elle est nouvelle et éternelle. Il n'y aura plus besoin d'en avoir. Elle est là, pour toujours, cette alliance. Donc Dieu va sceller une alliance avec nous. Il va commencer dans ce jardin. Jésus veut nous faire entrer dans cette alliance. Et l'entrée se trouve être ce combat dans le jardin des oliviers. La bataille du Christ est une bataille qu'il livre seul, puisque tous les apôtres l'ont abandonné. Alors ne tirons pas trop vite sur les apôtres, parce que nous aussi, nous abandonnons le Christ chaque fois que nous choisissons le péché. L'agonie au jardin des oliviers est une solitude extrême du Christ, et Jésus, que nous demande-t-il? Simplement d'être à ses côtés pour son combat, pour nous sauver. Entrer dans le combat du Christ, c'est aussi dire oui à son œuvre de salut en nous. Mais ce oui ne peut se vivre de notre part qu'en fixant les yeux sur Jésus-Christ. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Alors, est-ce que, Seigneur, tu peux me comprendre? Un jour, le père Damien, celui qui s'occupait des lépreux, dans l'île de Molokai, dans le Pacifique, eh bien, était vraiment découragé de sa mission. Il vivait au milieu des lépreux. Et il demandait au Seigneur, est-ce que vraiment tu peux me comprendre dans tout ce que je vis? Et son regard s'est arrêté sur un crucifix. Il a dit, évidemment, bien sûr que tu peux me comprendre. Parce que fixer les yeux sur le Christ, c'est d'abord fixer sur les yeux, c'est d'abord fixer les yeux sur le crucifié, pardon. C'est ce que dira saint Paul. Je ne veux rien savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Et pourquoi Jésus-Christ crucifié? Saint Paul aux Romains nous fait comprendre, d'ailleurs Monseigneur Quatennens, qui est venu ici il y a peu de temps, a repris cela pour les chrétiens d'Avignon. Il leur dit, comprenez-le bien. Votre vieil homme a été crucifié avec lui pour que fût réduit à l'impuissance ce corps de péché et que vous cessiez d'être asservis au péché et à la mort. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons désormais en lui. Le Christ est ressuscité des morts et la mort n'a plus sur lui aucun pouvoir. Sa mort fut une mort au péché une fois pour toutes et sa vie est désormais une vie totalement à Dieu. Et vous de même, désormais, vous êtes morts au péché et vivant dans le Christ Jésus. Donc, on commence à vivre réellement lorsqu'on est mort au péché. Hein. On commence à vivre réellement quand on est mort au péché, lorsque j'ai décidé de renoncer au péché. C'est ce qu'on fait pendant le baptême. Renoncez-vous à tout ce qui conduit au mal, renoncez-vous au péché, renoncez-vous à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Je renonce. Je décide de... Voilà. Et je renonce pour vivre. Pourtant, nous savons bien qu'il existe une lutte en nous. C'est tout le thème du combat spirituel, mis en lumière par saint Paul au chapitre 7 de l'Épître aux Romains, versets 19 à 25. Alors les jeunes de l'ESM sont là, donc ils pourraient vous en parler bien mieux que moi maintenant, puisqu'ils ont eu quelque chose sur le combat spirituel. Je serais presque tenté de leur laisser la parole maintenant, mais ne voulant pas faire un excès de panique chez certains, je ne le ferai pas. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est terrible, on laisse habiter en nous le péché, comme un parasite. Moi qui voudrais faire le bien, on est tous d'accord là-dessus. Je dis pour les auditeurs que les gens qui sont présents dans cette chapelle disent oui. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi, ce qui est à ma portée, c'est le mal. Tellement facile de faire le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, moi, par ma raison, je suis au service de la loi de Dieu et par ma nature charnelle, au service de la loi du péché. Donc il faut passer de la raison à l'amour. Les yeux fixés sur Jésus-Christ signifient qu'on ne perd pas de vue. On suit sa trace et cette trace, c'est la trace de l'amour. Alors au début, on est tout feu, tout flamme, on aime bien. On dit « Ah oui Seigneur, tu es merveilleux ». Souvent quand on vient de se convertir, on trouve que tout est extraordinaire et puis il faut durer. C'est ce que dira sainte Marguerite Marie, « Mon Dieu, faites que toute ma vie, j'ai un amour pour vous fort et persévérant. » Même Marguerite Marie le dit, sainte Marguerite Marie. Elle a peur de ne pas être fidèle. Et saint Paul réprimande aussi les Galates, par exemple. « Galates stupides, qui donc vous a ensorcelés? À vos yeux, pourtant, Jésus-Christ a été présenté crucifié. C'est un petit peu aussi le songe de Don Bosco. Tout le monde trouvait que Don Bosco était extraordinaire. Alors, on voulait marcher à sa suite. On disait, il marche sur un tapis de roses. C'est toujours un petit peu comme ça au début de la vie spirituelle. On a l'impression de marcher sur des roses. Mais sous les roses, il y a des épines. Alors, on s'est aperçu, voilà, dans le rêve de Don Bosco, tout le monde, il y avait plein de jeunes qui le suivaient. Et puis, certains disaient, ah, mais ça pique, en fait. Et donc, il rebroussait chemin. Et c'est un petit peu ce que vivent déjà les apôtres dans le chapitre 8 de saint Marc. Jésus commença à enseigner ses apôtres qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Je ne veux rien savoir, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Non seulement Jésus nous demande d'entrer avec lui dans ce combat pour nous, mais il nous demande de l'imiter pour continuer son œuvre de salut pour tous les hommes. Nous voyons cela dans l'Épître aux Colossiens. Au verset 4, il est dit « Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus » et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles. Hein, encore une fois, il est question d'amour. Normalement, le chrétien, c'est celui qui aime. Le chrétien, ce n'est pas celui qui fait des choses bien, c'est d'abord celui qui aime, qui a l'amour dans le cœur. D'où l'expression de saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux ». Dans le verset 24 de l'Épître aux Colossiens, saint Paul continue en disant « Maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Non seulement je veux être saint, mais je veux que toutes les personnes qui soient autour de moi soient saintes. Alors je vous propose, si vous restez pour l'adoration, eh bien de prier particulièrement pendant cette adoration pour la personne qui est à côté de vous, devant vous, derrière vous, afin qu'elle devienne sainte. C'est pareil pour vous, mes sœurs. Je ne pense pas que vous êtes autorisés à changer de place, mais hein, faites comme vous pouvez. Peut-être que tout cela peut me faire peur. Jésus lui-même a eu peur. Il commença à ressentir frayeur et angoisse, nous dit l'évangile de saint Marc, chapitre 14, verset 33. Peut-être nous voudrions partir comme les apôtres. Voilà. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent, Matthieu 26, 56. Et pourtant Jésus nous pose la question. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il le dit, bien sûr, bien avant son reniement, mais c'est ce qu'il a dans le cœur, et c'est cette parole ici qui lui permettra de revenir. Quand tu seras revenu, lui dira Jésus, affermis tes frères. C'est pour cela qu'il nous est proposé d'entrer dans son combat, parce que Jésus a les paroles de la vie éternelle, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Entrer dans le combat de Dieu, entrer dans le combat de Jésus, c'est rester d'abord avec lui. Voilà. Vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi. Ben Seigneur, ce soir, je veux rester avec toi. Et rester avec toi, c'est entrer dans ton combat. Il nous dit de rester avec lui, de veiller et de prier pour ne pas entrer en tentation. Je suis assez surpris d'ailleurs de voir à quelle vitesse les chrétiens ont fait, eh bien, non pas un effort, mais ont bien pris cette nouvelle traduction du Notre Père. Hein, ça se dit assez facilement maintenant. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Entrer dans le combat de Dieu, c'est aussi ne pas entrer en tentation. C'est entrer par la porte étroite. Je prends cette porte étroite pour ne pas emprunter le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Sainte Thérèse de Lisieux écrivait à sa mère supérieure, je pense que c'était sa grande sœur à l'époque, « Ma mère bien-aimée, je vous l'ai dit, mon dernier moyen de ne pas être vaincu dans les combats, on écoute, c'est la désertion. Ce moyen, je l'employais déjà pendant mon noviciat. Il m'a toujours parfaitement réussi. Ce n'était pas là de la bravoure, n'est-ce pas, mère chérie? Mais je crois cependant qu'il vaut mieux ne pas s'exposer au combat lorsque la défaite est certaine. » C'est vrai, logique. D'ailleurs, elle le disait, les jeunes de l'ESM pourraient vous le dire, puisqu'ils connaissent maintenant la référence par cœur, dans la tentation, le courage, c'est la fuite, disait Thérèse de Lisieux. Et elle continue en disant, « Ah, que Jésus me pardonne si je lui ai fait de la peine. Mais il sait bien que tout en n'ayant pas la jouissance de la foi, je tâche au moins d'en faire les œuvres. Je crois avoir fait plus d'actes de foi depuis un an que pendant toute ma vie. » Ah, c'est sa période de ténèbres. À chaque nouvelle occasion de combat, lorsque mon ennemi vient me provoquer, je me conduis en brave, sachant que c'est une lâcheté de se battre en duel, je tourne le dos à mon adversaire sans daigner le regarder en face. Mais je cours vers mon Jésus et je lui dis être prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. Pourtant, Thérèse sait bien qu'elle est pauvre et fragile. Elle le dit dans un de ses poèmes. « Aux pauvretés, mon premier sacrifice, jusqu'à la mort, tu me suivras partout. Mais, car je le sais, pour courir dans la lice, l'athlète doit se détacher de tout. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. L'athlète doit se détacher de tout. » L'athlète, c'est aussi une image que saint Paul prend, voilà, en disant que, eh bien, il faut s'entraîner comme dans les courses du stade. Et elle part du cœur de Jésus en disant « Près de ton cœur divin, j'oublie tout ce qui passe. » Alors là, nous sommes aux premières loges ici. « Je ne redoute plus les craintes de la nuit. Ah, donne-moi, Jésus, dans ce cœur une place, rien que pour aujourd'hui. » Cette place dans le cœur de Jésus, eh bien, c'est la porte étroite, la porte des brebis. Dans l'évangile de saint Jean, que nous connaissons bien, Jésus nous dit « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. » Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, Mais écoutons la voix du Seigneur. Et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom. Et il les fait sortir. Il s'est battu pour chacun et chacune d'entre nous. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, comme Thérèse, qu'on vient de le voir, elle tourne le dos à une autre voie, car elles ne connaissent pas, les brebis, la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser à eux, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus met la barre un petit peu moins haut, peut-être, ou plus haut, comme on voudra. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. » Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Il pourra sortir et trouver un pâturage, parce qu'on rentre pour sortir en fait. On rentre pour trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Et c'est ce qu'il commence à faire au jardin des Oliviers à Gethsémani. Alors, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur, ce qu'il a à nous dire pendant cette adoration. Le portier ouvre et les brebis écoutent sa voix. Et puis, il va nous parler chacun et chacune, car il nous connaît chacun et chacune. Il nous parle de manière particulière à chacun et à chacune. Pour terminer, je voudrais avec vous méditer le psaume 44, le redire d'une manière assez simple, et peut-être qu'en écoutant ce psaume, nous pourrions nous approprier ces paroles en demandant au Seigneur la grâce de les vivre. D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur quand je dis mes poèmes pour le roi, d'une langue aussi vive que la plume du scribe. Là, nous allons avoir ce temps d'adoration et nous allons pouvoir dire nos poèmes pour le roi. Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, oui, Dieu te bénit pour toujours. Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur. Oui, Seigneur, tu peux te battre pour moi. Ça valait le coup que tu te battes pour moi, puisque je suis là ce soir à tes côtés. Donc ton honneur, Seigneur, c'est de courir au combat pour la justice, la clémence et la vérité. La justice, la clémence et la vérité. Jésus se plaît à nous faire miséricorde du moment que nous reconnaissons notre péché et que nous nous laissons relever par lui. Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent. Sous tes coups, les peuples s'abattront, les ennemis du roi frappés en plein cœur. Ton trône est divin, un trône éternel. Ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Oui, Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une onction de joie comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. On retrouve les aromates. Des palais d'ivoire, la musique t'enchante. On pourrait aussi dire, chantez au Seigneur un chant nouveau. Qu'est-ce que je vais lui... Quel air de musique, quel poème je vais lui jouer ce soir. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. À ta droite, la préférée, sous les ors d'Ophir. Et le Seigneur parle à notre âme. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur. Prosterne-toi devant lui. Alors, filles de Tyr, les plus riches du peuple, chargées de présents, quêteront ton sourire. Ah, ça serait merveilleux que le Seigneur passe au milieu de nous pour quêter notre sourire ce soir. Allons-nous simplement avoir des doléances ou allons-nous aussi avoir un carême de gratitude, dire merci, Seigneur, pour ce que tu as fait dans ma vie, cette semaine, aujourd'hui. Voilà. Est-ce que tout allait mal forcément aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur peut se permettre de quêter un sourire parmi nous? Voilà. Il sourit, je dis ça pour les auditeurs de Radio Espérance. On les conduit parmi les champs de fête. Pardon, fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Sur toute la terre, tu feras d'eux des princes. Je ferai vivre ton nom. C'est pour ça qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Pour les âges des âges, que les peuples te rendent grâce, toujours, à jamais. C'est donc le temps de l'appel, comme il vient de résonner dans ce téléphone. Demandons au Seigneur la grâce, eh bien, de comprendre combien il s'est battu pour nous, que c'est son amour qui a fait se battre pour nous. Et les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans son combat, décidons, si nous le voulons, eh bien, d'entrer dans ce combat pour le suivre, pour être avec lui, pour aussi donner notre vie pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais... Amen.